c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et pour commencer cette première émission de l'année 2022, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2022. J'espère remplie de bonheur, en tout cas pour vous tous qui nous écoutez. Et puis pour vos proches, bien évidemment, on va essayer de vous accompagner du mieux qu'on peut tout au long de cette année 2022 avec toujours d'aussi beaux sommaires qui vont vous attendre. On va mettre le paquet encore une fois, je vous le promets. Si on ne vous a pas lâché pendant les fêtes, on ne va pas vous lâcher non plus pendant cette année qui s'annonce riche en événements. Vous l'avez compris en tout cas au nom de toute la radio, voilà encore une fois, bonne année à tous. Et aujourd'hui au programme, eh bien nous allons parler du film Permis de construire, puisque le réalisateur Eric Fraticelli va nous rejoindre dans quelques instants. Une poignée de secondes, il sera avec nous pour nous parler de ce film qui sortira le 12 janvier au cinéma. On aura également le grand plaisir de parler du grand retour de Sam, c'est ce soir sur TF1 avec une toute nouvelle saison inédite, avec un grand coup de pied dans la fourmilière. Sam s'installe à la campagne. Pour notre plus grand bonheur, on va beaucoup rire, je vous le dis, on en parle avec son interprète, Natasha Lindinger et Charlotte Gassio, qui seront nos invités aujourd'hui, exceptionnels pour cette première de l'année. Autre invité exceptionnel, c'est Muriel Robin. Elle sera à l'affiche de la mini-série Mon Ange, qui démarre jeudi sur TF1. Muriel Robin sera également avec nous. On parlera également du très beau documentaire Rosie, qui sort mercredi dans les salles. Sa réalisatrice Marine Barnerias sera notre invitée pour en parler également. On démarre tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné, notre premier coup de cœur ciné de l'année, on va le consacrer au film Permis de construire, qui sortira le 12 janvier prochain dans les salles. Un film de et avec Eric Fraticelli, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Eric.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors un film que moi j'ai pu voir avant 2022, hein, c'était déjà l'année dernière. Mais alors franchement, que ce qu'on rit, et on rit de bon cœur, ça fait du bien de démarrer l'année avec une pure comédie. Mais attention, une pure comédie corse. Hein, on peut le dire comme ça, je crois, Eric.
Ah oui, celle-là, elle est 100% corse. On a tout tourné en Corse. D'ailleurs, même les scènes qui se passent soi-disant dans des appartements à Paris, on les a tournées en Corse.
Ah ouais, ça c'est le petit secret de tournage. Donc même les scènes du cabinet dentaire, etc., de Didier Bourdon, c'est en Corse.
C'est en Corse, d'ailleurs, vous voyez, sur l'affiche, il est marqué 100% Made in Corsica, on n'a pas voulu mentir. Et on a même tourné le cabinet d'architecte, design, high-tech, tout ça, dans la cave d'un vignoble. On a reconstitué un cabinet d'architecte moderne, dans une cave, quoi.
On ressent vraiment l'amour de son île quand on voit ce film, parce que au moment où débarque le personnage campé par Didier Bourdon, il y a tout plein de magnifiques images qui arrivent et à la fois après, avant de partir sur l'histoire même, il y a vraiment c'est magnifique, toutes les vues de drones qui ont été faites et puis les vues de paysages, c'est somptueux vraiment, c'est une belle carte postale pendant 2-3 minutes qui nous file comme ça sous les yeux, qui donne envie d'y aller mais immédiatement. Quoi.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a des images de drones, mais il y a aussi des images d'hélicoptères, parce que la haute montagne en Corse est trop haute pour des drones. Elle est à 2700 mètres pour le plus haut, donc là, il fallait des hélicoptères aussi. Je tenais absolument à montrer, dès que le personnage parisien incarné par Didier Bourdon arrivait en Corse, je tenais à montrer la Corse. tel que je l'aime, avec une musique magnifique qui s'appelle Corsica d'ailleurs, qui est interprétée et créée par Pedro Guelfucci, qui malheureusement nous a quitté il y a peu de temps. Pourquoi je comptais, pour me débarrasser ensuite des idées de dire bon, alors on va encore voir des plages, on va voir la montagne. Non, je vous la montre bien comme il faut et après on se concentre sur l'histoire et les personnages.
Ah bah là, c'est moins qu'on puisse dire. Alors comment est venue l'idée justement de permis de construire? Comment est né le projet?
Alors le projet est né, alors c'est, en toute honnêteté, c'est pas moi qui ai eu l'idée originale. C'est les producteurs qui sont venus me trouver. Alors ils m'ont juste donné une petite phrase du style: tu vas nous écrire un film sur un Parisien qui voudrait obtenir un permis de construire en Corse. Oui, après il faut faire un film hein, derrière. Il faut écrire toute une histoire. Mais c'est eux qui ont eu cette idée. Alors pourquoi ils sont venus me chercher moi? Peut-être parce que ça fait plus de 25 ans que j'écris sur la Corse, que je fais rire avec la Corse, donc il y a une certaine expérience. Même les pièces de théâtre, je les ai mises en scène, mais sinon moi j'avais jamais rien réalisé. Et du coup c'était une grande première pour moi.
Alors évidemment, moi j'ai vraiment ri parce que je la sentais venir celle-là, mais même la blague du sandwich corse, on lui a droit.
Bah, vous savez que c'est une blague que nous avons écrite nous avec mon pote quand on était en duo. Ça fait partie d'un sketch en fait, cette blague là, ouais.
Et elle ressort pas mal hein, dans les dîners, les choses comme ça. On se raconte souvent cette blague corse, mine de rien.
Eh ben ça c'est la réussite d'une blague quoi, enfin d'une blague ou je sais pas, un morceau de sketch, quand les gens se l'accaparent, que ça part, on sait même plus qui l'a créé, qui l'a inventé, ça veut dire que c'est réussi.
Alors il y a quelques clichés évidemment, on meurt de rire d'ailleurs quand on voit certaines réflexions et certains personnages. Comment vous les avez justement construits tous ces personnages autour de Didier Bourdon, que ça soit la personne de l'accueil à l'hôtel, que ça soit tous les comédiens qui vous entourent, le personnage aussi de votre épouse?
Bah en fait tout simplement j'ai regardé autour de moi. Et je me suis inspiré de gens qui existent vraiment. Alors évidemment, j'ai forcé le trait et je les ai mis dans des situations où ça les mettait en valeur, leur comique ressortait, mais tous ces gens existent en fait.
Alors ce qui est assez drôle aussi, c'est évidemment tous ces panneaux troués un peu partout, ça commence très très fort d'ailleurs là-dessus quand Didier Bourdon arrive. Il y a vraiment des scènes très drôles, mais en tournage on dit souvent que la comédie c'est pointu quand même malgré tout. Donc est-ce qu'on rigole autant quand on tourne une comédie comme celle-ci? Il y a des moments un peu voilà où on relâche, ou alors on reste quand même très très concentré et il y a pas trop de place justement?
En tant que réalisateur, on n'a pas le temps. Les comédiens, c'est pas pareil. La partie comédien, quand on a pas énormément de textes et tout, qu'on se débarrasse assez vite de ces contraintes, on peut s'amuser et rigoler. Mais sinon, sur le tournage, c'est assez compliqué. Alors, en dehors du tournage, dès que la journée se termine, alors là, oui, là, on rigole. Mais c'est vraiment un rythme de fou, la comédie. Et c'est vrai qu'on peut pas trop rire pendant le tournage. Enfin, on peut pas, on a le droit. Mais c'est un rythme de fou, on n'a pas trop le temps, quoi.
Les personnages de Didier Bourdon justement et Anne Consigny, c'était évident, c'était Didier pour ce rôle?
Alors moi dans ma tête j'avais trois personnes qui pouvaient jouer ce rôle là. Ensuite il y a les producteurs et Warner ont fait une petite liste de leur côté. On a joint les trois listes, on a gardé les noms qui étaient en commun sur les trois listes. Il y figurait encore et c'était le seul que je connaissais des trois personnes. Et en plus je l'apprécie beaucoup dans la vraie vie. On a déjà travaillé ensemble sur un de ses films qui s'appelait Bambou, qu'il avait réalisé et écrit. On s'était super bien entendu, donc je me suis dit sur les trois c'est le seul que je connais, il correspond le plus au personnage, c'est Didier, voilà, c'est tout.
Et oui, Didier qui sort deux films en un mois d'intervalle, puisque il est même certainement encore à l'affiche de Mes Très Chers Enfants, qui est sorti le 15 décembre dernier, où là il roule en voiture de luxe, et là il débarque en Corse, en Dacia.
Oui, c'est en voiture de location. Ah bah oui, mais c'est ça le cinéma, hein. Vous passez de très riche à très, on va dire très modeste. Ceci dit, c'est un dentiste, il est quand même ça va, il est pas à la rue hein dans le film.
Non mais il nous fait beaucoup rire en tout cas. On va écouter la bande-annonce de Permis de construire ensemble et puis on revient juste après, Eric, pour ce premier coup de cœur ciné de cette année.
Allez, c'est parti.
Tu vois, il faut pas ouvrir. Après, les gens, ils viennent. Vous savez que votre père a sauvé le mien.
Sens-tu?
Sens-tu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
En fait, je voudrais construire une maison sur son terrain.
I love it, j'adore.
Évidemment, il faut, dans un premier temps, que je dépose une demande de permis de construire.
Mais vous pouvez pas lui accorder, là-haut. Pas question que je le bouge, mon troupeau, parce que j'ai un bail verbal, moi.
Et puis, il faudra bien sûr que j'ai un entrepreneur pour la construction.
Qui c'est qui a fait ça?
C'est moi.
Pas de problème. J'ai un cousin qui a une petite équipe.
C'est quoi ce mur?
Dans un instant, la suite de notre spécial permis de construire, notre spécial Sam, Muriel Robin, Marine Barnerias. On va pas s'ennuyer, alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. 2022. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Permis construire, la comédie de ce début d'année à ne pas rater. Ça sera le 12 janvier au cinéma. Eric Fraticelli, le réalisateur et comédien, est avec nous. Est-ce que c'est difficile justement d'être devant et derrière la caméra? Comment on gère ça, Eric?
Ben moi, en plus, c'était mon premier film. J'avais même pas réalisé un court-métrage, donc je découvrais beaucoup de choses sur le tournage. Et c'est, ça peut être casse-gueule, hein, honnêtement. Faut faire attention. Parce qu'on a 10 000 questions à traiter, 10 000 réponses à donner. À la limite, si vous avez une journée où vous n'avez pas à jouer, ça va. Mais c'est déjà du boulot, hein, de réaliser. Mais en plus, quand vous devez jouer, vous avez tous ces problèmes-là à régler. Par exemple, des fois, avant de commencer une scène, on vous annonce que le décor de demain, finalement, on a un gros problème. Et il faudra vite trouver un autre décor. Et là, vous devez attaquer votre scène en tant que comédien. Et vous y pensez à ce que vient de vous dire la personne. Et vous dites, mince, comment on va faire demain? C'est pas facile à faire. Franchement, c'est, mais il y a plein de gens qui le font. Donc, pourquoi pas moi?
Comment pourrait le définir, Santu?
Santu, donc mon personnage, comment on pourrait le définir? Ah, c'est une très bonne question. Vous savez que Santu, en plus, c'est le prénom de mon père. J'ai utilisé le prénom de mon père. Mais bon, le personnage ne lui ressemble pas. On va dire, c'est le Corse vraiment, assez.
Sur souche?
Ouais, assez typique, c'est vrai. Ouais. Une personne, qui s'ouvre pas facilement. Comme la Corse, quoi. Mais sitôt que cette personne a en face d'elle quelqu'un de valeur, alors là, c'est, on ouvre tout et on donne son cœur, quoi.
Comment les Corses ont réagi quand ils ont su que vous alliez tourner là-bas ce film?
Alors, quand ils ont appris, ça je sais pas, mais quand on a montré le film à tous les Corses, c'était important pour moi. Ça a été vraiment un succès. Et c'était important pour moi sur le plan personnel aussi, vous voyez. Et puis moi j'habite en Corse, donc s'ils avaient pas aimé, ça aurait été compliqué.
Ils ont compris la blague alors?
Oui, non.
La magade, hein, c'est ça?
La magagna.
La magagna.
Voilà, on va le dire avec l'accent. La magagne. Allez-y.
La magagne.
Bravo, voilà. C'est un art de la plaisanterie chez nous, ouais, tout à fait, c'est vraiment culturel. Et voilà, on taquine les gens, mais on taquine que les gens qu'on aime.
Ah, c'est déjà bien ça.
Oui, parce que sinon l'autre peut prendre mal et c'est dispute, alors là, voilà, après c'est compliqué.
Alors on va y découvrir effectivement ce couple qui arrive, qui hérite d'un terrain de 6000 m², qui vont vous voir s'effriter petit à petit. On vous dit pas pourquoi, évidemment, pour pas déflorer l'histoire, pour y construire une magnifique maison par un architecte haut en couleur, interprété avec brio par Simon Abkarian. Quelle était la scène la plus drôle à jouer, là maintenant, Eric? Est-ce qu'il y en a une qui ressort? Que ça soit en tant que réalisateur ou en tant que comédien, pour le coup.
Alors, en tant que réalisateur, je vous le dis, on n'arrive pas à rire. Mais en tant que comédien, je crois qu'il y a deux scènes qui sont sorties du lot. C'est celle où il lui apprend les onomatopées corses qui nous servent de langage à nous. Et quand ils sont bourrés dans la voiture. Alors ça aussi, ça c'était sympa à faire. Bon, on était fatigués, c'était très tard dans la nuit, mais on a rigolé quand même, ouais.
Comme quoi, faut bien jouer, hein, mine de rien, quand même, hein, à un moment donné, il faut y aller. Permis de construire, c'est vraiment, faut y aller, justement. C'est le 12 janvier, c'est le film à ne pas rater. Alors, c'est pas fait pour les Corses, hein. Voilà, pour le coup, c'est vraiment un film qu'il vous faut aller voir tous, parce que vous allez beaucoup rire. On va voir de beaux paysages aussi. Et on sent vraiment, vraiment l'amour de la Corse, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé en voyant ce film, Eric. On sent vraiment votre amour de votre île.
Bah là, ce que vous me dites, ça me touche parce que moi, c'est très important là. Et vous le voyez, j'ai la voix un peu embarquée par l'émotion. C'est très important pour moi ce que vous venez de dire parce que je l'aime beaucoup, mon île, et j'ai mis dans mon film, ouais.
Et nous aussi, on l'aime beaucoup. Quels sont les coins que vous préférez en Corse, justement? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers, Eric, que vous aimez particulièrement?
Ah, là, vous voulez que je me fasse des ennemis chez moi? Non, j'aime, il y a tellement d'endroits, donc je vais en énumérer beaucoup, ça sert à rien. Mais, comment dire?
Celui qui a jamais été en Corse, qui voudrait y aller en vacances, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de voir en premier?
Le truc, c'est que la Corse offre énormément de paysages différents. Alors, on aime le sauvage. Le sauvage et le conservé, je dirais le centre de la Corse ou le Cap Corse, par exemple. Si on aime tout ce qui est un peu, on va dire, belle plage, tourisme, un peu à la Saint-Tropez, hein, plus light, bien sûr, je dirais plutôt l'extrême sud. C'est quelqu'un qui aime La plage, mais un peu conservée et sauvage, je vous dirais la Balagne, l'endroit même où nous avons tourné, donc entre Île-Rousse et Calvi. Et après, il y a des endroits magnifiques comme Cargès, Porto, où là, vous voyez, il y a des montagnes qui tombent dans l'eau, c'est incroyable, mais ça dépend des goûts. Il y en a pour tous les goûts, encore, c'est ça qui est bien.
Mais oui, j'ai bien reconnu, ouais, justement, entre Calvi, Île-Rousse, dans ces coins-là, Saint-Florent, c'est magnifique aussi, tous ces coins-là où on y accède depuis Bastia par Corté, par Montagne ou le Cap Corse, mais c'est vraiment magnifique là aussi.
Ouais, c'est exactement, on a tourné entre Île-Rousse et Calvi, on n'a pas tourné à Saint-Florent, mais ça y ressemble beaucoup, et c'est des petits villages qui sont au-dessus d'Île-Rousse, ça s'appelle Pigne, Saint-Antonine, il y a eu Catéry, Loumio, et ça, c'est, ils sont magnifiques, ces villages. Moi, je suis pas originaire de cette région, hein, mais je suis un peu jaloux des gens de cette région parce qu'ils ont fait des villages magnifiques, vraiment.
Bon, bah, nous aussi, en tout cas, on est des amoureux de la Corse, comme vous, Eric, et on termine par une petite blague corse. Allez, il y en a une à nous raconter. On raconte celle du sandwich, autrement au pire, hein, parce que je suis sûr qu'il y a plein de nos auditeurs qui la connaissent pas.
Alors, c'est le sandwich, oui, voilà. En gros, c'est souvent quand on arrive dans un restaurant, quand on entend ça et on dit, bon, qu'est-ce qu'il vous reste à manger? Bon, là, on est à cette heure-ci, il n'y a plus que des sandwichs. Alors, vous avez le touriste, c'est pain, beurre, charcuterie et cornichon. Et le corse, pain, beurre, charcuterie et cornichon.
C'est quoi la différence? C'est eux-mêmes?
Non, la différence, c'est le prix. Le touriste est à 15 euros et le corse à 10.
Bon, bah alors, moi, je suis pas couillon quand même, je vais prendre le corse.
Il n'y a plus que des touristes.
Elle est très très bonne celle-là en tout cas. Merci Eric d'avoir été avec nous. Permis de construire, c'est le 12 janvier au cinéma. Belle année en tout cas 2022 à vous. On vous souhaite plein de succès en tout cas avec ce film. Et merci d'avoir démarré cette première de l'année 2022 en notre compagnie. Merci beaucoup Eric.
Merci beaucoup à vous. Et est-ce que je peux faire un petit bisou spécial à tous les Basques qui nous entendent?
Ah mais bien sûr, oui, puisqu'il y en a aussi. Notre émission est diffusée effectivement dans le Pays Basque aussi.
Vous avez le bonjour de la Corse, les Basques.
Merci beaucoup Eric. Et on termine avec un petit extrait et permis de construire. On le répète encore, c'est le 12 janvier au cinéma.
On héritait d'un terrain de 6000 mètres carrés qui se trouve à Montichou.
C'est où ça, c'est en Chine?
C'est en Corse.
En Corse?
En Corse?
En Corse. Oui, excusez-moi, monsieur, mais nous sommes perdus.
Je l'ai tout le temps. Les continentaux, ils sont perdus.
Non, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lire les panneaux, hein.
Les panneaux, c'est comme des balances. Et nous, on n'aime pas les balances.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Sam qui fait son grand retour ce soir pour notre plus grand plaisir avec 4 soirées qui nous attendent durant ce mois de janvier. C'est un peu notre rendez-vous annuel. Quel bonheur de démarrer cette année 2022 avec Natacha Lindinger qui est avec nous. Bonjour Natacha.
Bonjour, bah, c'est très agréable d'avoir son nom dit correctement. J'ai attendu 50 ans pour que ça arrive.
Ah ben, depuis le temps, maintenant, hein, Natacha, c'est un rendez-vous annuel qu'on se donne ensemble maintenant pour Sam. Nous, on est des fidèles de la série. Alors, depuis la deuxième saison, hein, évidemment, avec vous. Mais voilà, c'est vraiment une réussite. C'est un peu un coup de pied dans la fourmilière pour ce retour de Sam qui va se mettre au vert dans cette nouvelle saison. Toujours autant de plaisir, déjà, à jouer cette héroïne.
Oh oui, puis peut-être même un peu plus, parce que là, vraiment, on était obligé de se renouveler à cause du 109, des acteurs nouveaux qui étaient là, les anciens qu'on aime qui sont le noyau dur, et puis le décor, l'histoire, enfin, tout obligé à se renouveler. Donc, j'avais l'impression de continuer ça, mais à la fois de faire une nouvelle série. Donc, c'était très réjouissant.
Oui, il y avait besoin de se renouveler aussi, c'était un peu une demande des auteurs, des comédiens aussi, de se relancer un petit peu, de vraiment monter un nouveau challenge avec justement cette arrivée de Sam à la campagne.
Je ne sais pas si c'était une demande générale. Je crois que la production en avait envie. Et bon, parce que c'est compliqué de se renouveler. Quand on connaît bien son personnage, on a beau avoir des cas scolaires différents et des hommes dans notre vie différents. Il y a un moment donné, si on a fait le tour, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment continuer? Donc, c'est un peu essentiel, je crois, pour nous remotiver, en tout cas moi, et me donner envie de rester encore un moment. Comme avec cette production, on a toujours travaillé au coup par coup. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais obligé à signer pour 10 ans. On s'est toujours dit que chaque année, on écrivait des arches, on en parlait, on voyait si on avait envie, on le faisait avec TF1, la production et moi. qui fait que je n'ai jamais été obligée. Donc là, c'était vraiment une raison de rester et de se dire qu'il y avait encore plein de choses à faire.
Alors, évidemment, il y a beaucoup de changements, mais Sam, elle ne change pas fondamentalement. On va retrouver, évidemment, ce caractère aussi bien trempé de Sam qui, on va dire que ce départ à la campagne ne l'enchante pas vraiment. Elle va avoir beaucoup de mal à s'y faire, vous allez le voir, mais elle va retrouver Aurélie, évidemment, il y a plein de surprises qui nous attendent. Et puis, vraiment, Charles Gassio, le rôle d'Aurélie, qui vraiment explose cette saison-là. On la voit beaucoup plus, quel plaisir aussi. Du coup, vous avez partagé encore plus de scènes que d'habitude.
Ah oui. J'adore cette fille. J'étais ravie. Elle donne vraiment une couleur très, très réjouissante à la série. Et j'aime beaucoup nos scènes. Très marrant. Ben voilà, c'est un patchwork d'acteurs très différents les uns des autres. Et ça porte très bien ensemble.
Alors, premier un peu, allez, on va dire crush, c'est le maire. Évidemment, on va découvrir le maire de Saint-Paul-le-Truchon. Et vous allez voir que Sam ne va pas y être insensible. Mais que va-t-il se passer, évidemment? Peut-être que le maire cache des choses. C'est ce qu'on verra au fur et à mesure de cette saison. Incarné par Thierry Neuvik, Barbara Cabrita fait son arrivée. Alors, quelle bonne idée d'avoir trouvé en tant que directrice de l'école Chantal Latsou. Alors là, franchement, c'est un régal.
Ah, Chantal, moi, je la connaissais pas. Ça a été une découverte. Je l'ai adorée. Je trouve cette femme complètement rose. Et d'ailleurs, dans la série, je trouve que ce personnage qui est aux antipodes de dame, malgré son look beige et son autorité terrifiante, elle est extrêmement rock, en fait. Donc, j'étais très, très heureuse de cette rencontre.
Alors, il y a des scènes très, très drôles, évidemment, parce que là, vraiment, Sam passe limite d'un lycée un peu en zone d'éducation prioritaire, limite, hein, au pensionnat de Chavagne, pour imaginer un peu, avec vraiment les élèves en petit uniforme qui se lèvent quand le prof rentre. Enfin, ça bouleverse un peu les codes aussi de la professeure que peut être Sam, hein, aussi.
Oui, c'est ça qui était intéressant, d'ailleurs, c'est que je pense que c'est pas que les situations qui sont intéressantes pour moi à jouer cette année. C'est le décalage, et c'est souvent comme ça. Quand je tournais la série Hard, c'était drôle, c'est pas de jouer la caricature d'une bourgeoise qui a tout coincé, c'était de mettre cette femme sincèrement dans l'univers du porno. Et c'est le décalage qui a joué. Et là, c'est pareil. Je crois que Sam, dans cet univers extrêmement autoritaire, désuet, comme elle dit, bienvenue dans les années 50, c'est le décalage, c'est ce qui a joué entre ce qu'elle est et ce qu'elle ne supporte pas. Ça permet vraiment jeu, et ça permet des scènes de se renouveler, quoi. Voilà.
Ouais, et puis ça donne des scènes bien drôles aussi. Elle va pas pouvoir s'en empêcher, évidemment, hein, de venir en aide aussi aux élèves, hein, parce qu'on retrouvera dans ces deux premiers épisodes ce soir l'histoire d'un petit élève bègue avec évidemment un secret qu'il a du mal à exprimer. Donc elle va l'aider dans ce deuxième épisode qu'on verra ce soir. Là, vous découvrirez cette première histoire. Le premier épisode va servir un peu à planter le décor à la campagne, hein. Ça va être un peu ça ce soir, hein,
oui,
Natacha.
Absolument. Le premier épisode, on la retrouve. Elle est totalement dépressive, elle n'a plus de boulot, alors c'est toute sa vie d'être professeur, ses enfants c'est la maison tous, donc elle n'a plus personne, elle n'a plus d'homme parce qu'elle ne s'est pas aimée et qu'elle a renoncé à son mariage la seconde d'avant, donc elle est juste dépressive, sans argent, et elle squatte chez son pote Xavier, donc ça démarre mal, elle est de très mauvaise foi, elle est très énervée, agaçante aussi on peut le dire, et ils partent à l'anniversaire d'Aurélie à la campagne et
ouais, et puis elle va tomber un peu dans un piège que vont lui tendre Xavier et Aurélie dans ce premier épisode que vous verrez. Natacha, est-ce que vous avez déjà la suite un peu sur les rangs? Est-ce que vous avez envie, en tout cas vous, de vous plonger sur une 7e saison au printemps?
Alors, ce qui se passe, c'est que moi, là, j'étais sur plein d'autres choses et que pour l'instant, ma tête était dans mon travail. Donc, pour l'instant, je laisse avancer la production, proposer des choses. On verra avec les scénaristes, TF1 et la production, après lecture, si on a envie d'y aller. Je fais toujours coup par coup chaque année. Donc, pour l'instant, je n'ai rien lu et je ne sais pas vers où ça va aller. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas au bon endroit.
Nous, en tout cas, on a hâte de découvrir la suite. Les deux premiers épisodes ce soir, nous, on a eu la chance de les voir avant tout le monde. Vous allez vous régaler. Passez une très, très bonne soirée. Je vous garantis, c'est à 21h10 sur TF1. Merci, Natacha, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Ben, moi aussi, je me suis régalée à le jouer. Donc, j'espère que ça sera partagé. Voilà.
Mais j'en suis sûr. On va écouter la bande-annonce et juste après, Charlotte Gassio qui va nous rejoindre également. Merci beaucoup, Natacha.
Ben, vous l'embrassez pour moi.
Et j'y manque pas. À très vite.
Mon école se doit d'accueillir le remarquable professeur de français que vous êtes.
Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut me dire où on en est du programme? Vous levez la main comme ça tout le temps pour répondre? D'accord. Ah putain, je hais la campagne. Moi, le vent dans les feuilles, je m'en cogne. À quel moment tu t'es dit que j'aurais envie de m'enterrer dans ce trou?
C'est quoi, tu me saoules en fait?
Et après la Natcha Schallendinger, on va continuer notre spécial Sam qui revient donc ce soir sur TF1. Vous la voyez aussi bien sûr dans Demain nous appartient, on ne se quitte plus cette saison. Pour notre bonheur, Charlotte Gassiot est avec nous. Bonjour Charlotte.
On va déjà resituer un petit peu cette famille qui vient d'arriver. 4 enfants, 3 à toi et plus un ta sœur. Ça fait du monde tout ça à gérer.
Ça fait beaucoup de monde à la maison. Je suis absolument fan de mes enfants de fiction. Voilà.
Le courant est tout de suite bien passé avec tous. Pour le coup, ça a vraiment été une petite famille qui s'est nouée tout de suite.
Immédiatement. On s'est rencontrés la veille du tournage. On a dîné tous ensemble et on s'est aimés immédiatement. On a été complices tout de suite. Je crois qu'il n'y a pas une scène qu'on a fait tous les quatre. On n'était pas morts de rire. Donc vraiment, moi, c'est des jeunes que j'adore.
C'est la première fois que tu fais une quotidienne.
Ouais.
On connaît le rythme soutenu des quotidiennes. Faut être efficace, faut être dans l'efficacité, faut tourner très vite. C'est quasiment 30 minutes par jour qui sont mis en boîte, surtout sur Demain nous appartient. Les épisodes sont assez longs. Comment on s'adapte? Comment tu te prépares?
Alors, j'avais très peur parce qu'on a beaucoup beaucoup de textes et que je suis une mauvaise élève de l'apprentissage de textes. Mais on a des répétiteurs sur le plateau et ça c'est extrêmement précieux. Il y a des gens qui sont avec nous pour nous faire du texte tout le temps pendant qu'on se fait retoucher le maquillage, la coiffure, tout ça.
Donc avant ça, chaque scène.
Avant chaque scène, ouais ouais, vraiment.
Permet de bien mettre en scène, la scène en tête quoi.
Exactement. Et puis de nous redire où on en est aussi dans le déroulé parce qu'il nous arrive tellement de choses que c'est bien de savoir dans quel état d'esprit on est supposé être. Et ça me faisait assez peur l'apprentissage du texte et finalement je suis contente, je m'en sors pas trop mal.
Mais écoute, ça passe très bien en tout cas. Et puis alors 7, franchement, il y a pire, on est bien 7.
Ah, il y a largement pire, ouais, comme cadre de tournage, ouais, la vue sur la mer et tout. Non, franchement, c'est bien, c'est agréable.
Bon, nouvel appart, nouvelle vie, nouveau job.
Et ouais, c'est ça, nouveau job pour Audrey.
Et un peu inattendu, je crois.
Un peu inattendu parce que ça lui tombe un peu dessus. Audrey, ce qui est écrit dans la description du personnage, c'est qu'elle a fait 1000 boulots dans sa vie. Je pense que justement le côté, elle a du mal avec l'autorité et les patrons, ça fait qu'elle n'arrive pas à garder un job. Et là, elle se retrouve au Spoon un jour où ils sont complètement débordés. Et comme personne ne vient lui servir son café, ben, elle va se le faire elle-même. Comme elle se débrouille hyper bien, elle se met à servir les autres clients et Bart l'embauche.
Voilà, ben oui, parce que Bart et Louise ont pris les rênes du Spoon. Là aussi, il y a beaucoup de changements, évidemment. Il est vrai qu'après la prise d'otage, c'était difficile pour Tristan de rester sur place pour le personnage. Donc voilà, c'est un renouveau aussi pour le Spoon. C'est vraiment la série du renouveau. Hein. Les gens qui ne regardaient pas Demain nous appartient pourraient très bien commencer maintenant et auraient l'impression que c'est une nouvelle série.
Bah complètement. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait parce que c'est pas une série que je regardais avant. Et c'est vrai que quand on commence le début d'une intrigue, on arrive à s'y accrocher et avoir envie de dérouler, savoir ce qui se passe. C'est plutôt bien écrit, bien construit. Il y a quasiment un cliffhanger à la fin de chaque épisode, donc on a envie de savoir la suite. Et même si on a un peu de mal au début à savoir comment les personnages sont connectés les uns aux autres, l'intrigue est assez intéressante pour qu'on ait envie de savoir la suite finalement.
On va parler d'Aurélie évidemment. Aussi, ben oui, de Sam. Alors là aussi, on va dire, on est beaucoup de renouveau hein, en ce moment.
L'année reboot, ouais.
L'année reboot, exactement. Avec, tout repart à zéro pour Sam, pour Aurélie aussi, puisque tu fais partie aussi du voyage, bien évidemment. Fred Testo, on va retrouver tous les personnages, mais à la campagne. Ça va faire du bien de prendre l'air, parce qu'Aurélie, c'est quand même aussi son cheval de bataille. C'est la nature et la protection de l'environnement.
C'est ça, c'est l'écologie. Et avec son amoureux Thomas, qui est joué par Alexandre Guéry, il déménage à la campagne, faire de la permaculture. Ils invitent Sam et Xavier, donc Fred Testo et Natcha Schallendinger, à venir pour un anniversaire. Et puis, on arrive à les coincer et ils restent avec nous à la campagne.
Charlotte, merci d'avoir été avec nous pour nous parler un petit peu de ce personnage. Et puis, on te dit à très bientôt.
À très bientôt, c'est toujours un plaisir.
Coup de cœur télé consacré à Mon Ange, la mini-série de TF1 qui débarque cette semaine avec Muriel Robin qui est avec nous, notre invitée. Merci Muriel d'être une nouvelle fois avec nous.
C'est un plaisir, comme toujours.
J'espère que tu vas bien. Écoute, franchement, on a découvert cette mini-série magnifique où tu joues le rôle d'une maman qui reconnaît sa fille disparue des années plus tôt et qui va se rendre dans ce village pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, qui va se heurter à de nombreux secrets, à de nombreuses fermetures, qui va rien lâcher.
Oui, j'ai aimé ce personnage parce que c'est une, il y a sa solitude parce qu'elle se bat seule. Elle seule croit que sa fille est encore vivante 8 ans après sa disparition. Cette persévérance, cette force. On connaît la force du désespoir, mais la force de l'espoir. Et tout ça se passe effectivement dans une campagne magnifique, mais on rentre dans un village et comme parfois, pas toujours, mais dans un monde un peu comme ça, fermé, peu de gens, il y a les secrets, il y a beaucoup de non-dits, on parle peu, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et en mettant le doigt là-dedans, on lève des voiles sur les choses et peut-être qu'elle retrouvera sa fille.
Il y a beaucoup de secrets, effectivement, et tout le long du film, cette maman va rien lâcher. Va-t-elle retrouver sa fille ou pas? C'est évidemment tout l'enjeu de cette mini-série. Que lui est-elle arrivée aussi? Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans ce personnage?
Mais encore une fois, c'est cette force, cette solitude.
Est-ce que tu portes vraiment la mini-série? T'es quasiment sur tous les plans.
Oui, oui, Marie-Lou Berry est là aussi, et ça compte beaucoup parce qu'elle enquête et tout d'un coup elle se trouve, s'occupe plutôt des voitures qui rentrent dans des vaches, et tout d'un coup il y a peut-être un meurtre dans le village. Mais encore une fois, j'ai aimé elle est différente, cette femme, et puis évidemment on peut imaginer qu'elle a été critiquée, elle n'est pas aimée, elle vient déranger, et c'est difficile de déranger. Quand on dérange, généralement on repart, et elle reste poussée par l'amour évidemment pour son enfant et le désir de vérité. Donc c'est cette force seule, et je pense que beaucoup de femmes sont fortes et seules pour parfois dans des situations moins graves que celle-ci, mais ça parle des femmes qui sont seules souvent dans une pour se battre face à des problématiques moindres, encore une fois. Et je trouve que les femmes sont des héroïnes de toute façon, même si c'est dans des choses plus quotidiennes. Et celle-ci évidemment est face à quelque chose de, c'est compliqué d'arriver dans un village et personne veut de vous. Elle a un petit problème avec l'alcool parce que quand sa fille a disparu, donc il y a ça, elle replonge, elle est montrée du doigt, elle fait comme elle peut parce que c'est un être sensible. Son mari évidemment l'a quittée. La force des femmes, quoi. La force, se battre seule contre la justice. Et c'est pas contre la justice évidemment, mais tout le monde a lâché et on y va et on y arrivera, quoi.
On sent vraiment que c'est une femme forte et fragile, à la fois qui a été fragilisée évidemment par cette disparition. Il y a beaucoup de moments, effectivement tu le disais, où il y a une solitude à jouer. Et c'est peut-être les scènes les plus difficiles, non, à jouer quand on n'a pas justement de partenaire de jeu en face et qu'on a ces scènes de solitude.
Oui et non, parce que une fois qu'on a dit oui à un rôle, en fait, on le sent, quoi. On a un bout d'aile en soi, d'une manière, je sais pas, chimique. Donc après, une fois qu'on est sur le terrain, que ça se fait. Ce sont pas précisément les plus difficiles. À part ce qui nous échappe, ce qu'on joue, puisqu'en fait, ça repose sur ce qu'on dégage, donc il faut vraiment être bien ressentir le personnage. Mais ça fait que j'avais hâte de voir le film parce que je savais pas trop comment ce que ça faisait tout ça, quoi, tous ces morceaux où je suis souvent seule. Et je trouve le film vraiment formidable avec cette campagne magnifique et puis cette femme seule et puis ce petit village et une lumière belle, des jaunes, des oranges. Comme ça, des choses un peu western.
Il y a vraiment une lumière particulière. Ouais.
Oui, ça c'était vraiment une volonté de la production, et c'est Kika Ngaro qui a fait la lumière. Et oui, c'est un côté un western campagnard, quoi. C'est-à-dire que si on mettait ça dans les montagnes, dans les déserts américains avec une musique d'Ennio Morricone, ça, l'histoire fonctionnerait.
Un saloon où elle arrive, effectivement, tous les habitants sont là.
Et tout d'un coup, tout le monde, et on lui donne un grand coup de poing dans la figure pour qu'elle tombe sur le dos, sur la terre qui fout dans un nuage de poussière, et elle re-rentre dans le saloon, et elle re-rentrera dans le saloon jusqu'à ce que, quitte à prendre des coups. Et puis ça va aussi, sa vérité va lever d'autres vérités et qui feront, bon, il n'y a pas de suite au film, mais qui feront, bon, la vérité, elle fait du bien à tout le monde, quoi, parce qu'à un moment, tout le monde, beaucoup portaient des choses, ce qui doit être le cas, mais il y a des secrets dans les familles, il y a des secrets dans les villages, il y a des secrets partout, même si on est à une époque où la parole est plus libérée, malgré tout, ces secrets-là existeront toujours. Et ça permet de faire des films.
Bon, tu remontes sur scène, raconte-nous, en 2022, ça y est, on va enfin te revoir.
Oui, je finis ma tournée, je devais la finir, elle devrait être finie, mais bon, cause Covid, je serai sur scène en janvier-février, et je passerai 3 jours à Paris, dans 3 lieux différents. Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel et Olympia. Et puis voilà, je finis.
T'as manqué ?
La scène me manque pas, moi. C'est pas en ces termes, mais je suis contente d'être ici quand même, de retrouver un lien avec le public, évidemment. Évidemment, ça fait plaisir, faut pas le nier. Non, quand ça arrivera, je serai contente, quoi. Voilà, mais en vrai dire, je me réjouis pas parce que je me dis qu'il faut savoir qu'il se passe encore un truc, quoi. C'est comme si j'y croyais pas tout à fait.
On reste sur la réserve un petit peu.
Oui, mais on va pas faire youpi youpi parce que si c'est pour faire après youpi, bon. Donc voilà, voyons, chaque jour sa peine, chaque jour sa joie.
Muriel, merci infiniment d'avoir été avec nous encore une fois, et puis à très vite sur notre route.
Bah, merci encore et à bientôt, j'espère. Et comment?
Cherchez une jeune fille, Julie Castro, la fille unique. Elle est ici il y a un an et demi, et personne n'a l'air de la connaître. Là! Mon manche.
Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir au commissariat?
La police n'a jamais levé le petit doigt pour essayer de la retrouver.
Du coup, je me débrouille toute seule.
Rentrez chez vous, je vous en supplie.
Je reste. Je cherche ma fille.
Vous n'avez pas le droit de vous substituer à la police.
Alors enquêtez.
Voilà mon ange, donc jeudi à 21h10 sur TF1. Vendredi, à ne pas manquer aussi le grand retour de Ninja Warrior, avec de nouveaux Warriors bien sûr, mais aussi des anciens. Ça va y aller, hein, je vous dis, nouveau parcours, nouvelles épreuves qui attendent nos candidats. Toujours animé bien sûr par notre trio de choc, Iris Miltonard, Christophe Beaugrand et Denis Brognard. Bande annonce.
Depuis des mois, ils s'entraînent pour le défi le plus incroyable.
Nous sommes prêts, ils sont prêts. Allez, c'est parti.
Regardez la vitesse.
C'est énorme.
Allez, la suite et la fin de Chute, on écoute la télé dans un instant avec Julie Debazac et Marine Barnerias qui seront nos invités exceptionnels. Alors surtout, ne bougez pas, on revient, à tout de suite.
Bonne année 2022.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on va parler du film documentaire Rosie avec la réalisatrice qui est avec nous aujourd'hui, Marine Barnerias, qui démarre cette année 2022 avec nous. Bonjour Marine.
Bonjour, je suis en pleine forme. Alors, je suis tout ouïe pour répondre à tes belles questions.
Oui, comment ça va Marine? Merci en tout cas de nous offrir ce documentaire Rosie qui va nous raconter l'histoire de Marine, diagnostiquée sclérose en plaques, qui va pas du tout se laisser aller, bien au contraire, mais tu vas nous raconter ça.
Oui, alors, pour faire très très simple, déjà c'est pas un film sur la sclérose en plaques, loin de là. C'est un film qui va tout simplement parler d'une dame lambda qui a eu un aléa qui est arrivé dans sa vie et qui s'est tout simplement dit quelles vont être les clés pour pouvoir la faire sortir de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs, de toutes ces aléas qui peuvent arriver à la suite de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et là, s'en est suivi une espèce d'épopée un peu imprévisible où c'est la vie qui m'a donné la main et qui m'a guidée pendant un long voyage avec une multitude de péripéties, avec des aléas, des doutes. Et même si je suis rentrée de ce voyage il y a maintenant 5 ans, le voyage continue aujourd'hui sous différentes formes.
Ah, évidemment, maintenant voilà, les auditeurs ont deviné, mais évidemment Marine c'est toi, Rosie c'est toi, et Rosie c'est le petit nom que t'as donné justement à cette maladie.
Alors je suis loin d'être girly comme Nana, vous me voyez pas, vous m'entendez juste, mais ma petite voix de camionneuse peut vous dire que je ne suis pas forcément l'incarnation même d'une femme très 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 féminine. Mais je ne pouvais plus tout simplement porter mon sac à dos avec sclérose en plaques à la fois dans mon dos et sur ma tête. Et je me suis dit dans sclérose, mais sclérose, mais sclérose, mais bordel, dans sclérose il y a Rose. Et je me suis dit mais oui, mais punaise, mais bien sûr, Rosie en fait. Et donc là, il y a eu un moment où je me suis dit, j'écrivais sur mon carnet tous les jours, sclérose en plaque, sclérose en plaque. Je me suis arrêtée et j'ai changé ce mot en lui donnant ce petit nom de Rosie. Ça paraît un peu cliché, mais ça a changé ma vie.
T'as été diagnostiquée à 21 ans. Comment on prend ça à cet âge-là? Comment on prend cette nouvelle?
Comme toi. Comme toi, quand tu te réveilles le matin et que tu te dis que t'avais pas prévu quelque chose, et c'est la même chose. Il y a pas, ça peut faire peur quand on voit des mots comme ça qui claquent, qui font peur, les scléroses en plaque, les cancers, les machins, les trucs. Mais c'est tout simplement, je les mets dans les catégories et moi j'aime pas dissocier, justement. J'aime bien, même si évidemment je pèse mes mots en mesurant les pathologies et les problématiques que chacun peut avoir, mais en fait il y a un moment donné où quand tu ne contrôles pas quelque chose, t'as le même processus qui arrive. T'as peur, t'as la haine, tu doutes, tu es complètement déconnecté de toi-même. Et donc en fait moi, quand t'es arrivé à 21 ans, certes au début on se dit je vais me réveiller, je vais sortir d'un film, c'est pas possible, ça arrive toujours aux autres. Mais en fait tu vis au final le même processus que pour des aléas beaucoup plus simples, beaucoup plus anecdotique. Et c'est un processus en fait qui est assez intéressant parce qu'il devient assez universel quand t'arrêtes de le rendre beaucoup plus grave que ce qu'il ne l'est. Et en fait c'est qu'une question de choix et de décision et de perception. Donc oui, quand t'as 21 ans à l'époque, tu te dis mais bordel, qu'est-ce que j'ai demandé pour ça? Mais après, cette aventure te fait que ça se transforme et tu le prends plus comme quelque chose de très laid que tu n'apprécies pas, mais tu vas le découvrir comme quelque chose qui va devenir un allié, une sorte de rocher sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Et voilà, j'aime pas justement ce côté le ciel est tombé sur votre tête. Oui, évidemment, dès qu'on a un problème, le ciel tombe sur la tête de n'importe qui. Je pense qu'on peut aller demander à des personnes qui sont sur la terrasse autour de nous là, les problèmes qu'ils ont eu ces deux dernières années. Je pense que c'est des choses qui à leur échelle leur paraissent complètement infranchissables. Et je pense que ce film raconte juste le processus pour essayer d'y croire un peu plus.
Tu nous offres un véritable voyage initiatique. J'appelle ça un voyage initiatique où tu vas traverser trois pays. La Nouvelle-Zélande, la Birmanie, la Mongolie. On va voir évidemment des magnifiques paysages aussi. Mais comment t'as choisi ces trois pays? Pourquoi cela?
Alors, pas pour les paysages du tout. Je pense que dans mon film, on retiendra peut-être, justement, c'est pas du tout un film de voyage ou un carnet de route, ou tu vois. C'est, les pays sont arrivés un petit peu comme une évidence. Parfois, on veut tout rationaliser dans notre société, où dès que t'entreprends un choix un petit peu anodin, on a besoin de comprendre pourquoi, comment, où. Alors, en fait, parfois, c'est de l'ordre de l'animal, de l'instinct, de l'intuition, quelque chose qui ne s'explique pas. Et on a besoin de tout expliquer aujourd'hui, et c'est assez dommage. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu la vue une première fois. J'étais dans le déni. J'ai perdu la vue une deuxième fois. Et à partir de cette deuxième perte de vue, je me suis dit, j'ai un corps qui me parle, il faut que j'aille marcher. J'ai envie d'aller loin. Je veux pas aller en Europe. Je veux pas connaître les pays. Je veux pas aller aux États-Unis. J'ai pas envie d'aller marcher en Asie. Donc, je vais marcher dans un pays que je peux traverser dans son intégralité. La Nouvelle-Zélande, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. La Birmanie est arrivée comme une évidence. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le silence? Le silence, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, l'Inde va pouvoir me faire découvrir, c'est trop grand. Ok, je vais bifurquer sur la Birmanie. Et pour moi, la symbiose des deux, c'était la Mongolie. L'immense cité des steppes qui pouvait incarner le silence ultime que je viendrais de découvrir en Birmanie, et le côté sportif, le côté corporel à cheval en Nouvelle-Zélande. Et c'était la symbiose des deux. Voilà. Après, il n'y a pas eu de pourquoi, du comment, du machin, du truc mûche. C'est venu comme une petite voix qui m'a dit, vas-y, et arrête de te poser trop de questions.
Rosie, c'est le film documentaire à ne pas rater, c'est mercredi dans vos salles de cinéma. Marine, merci d'avoir été avec nous pour en parler, et on va se quitter avec la petite bande annonce.
Génial, Inch'Allah, profitez.
C'est en 2015. Ma vue, elle commence à diminuer. Je rentre dans une phase de déni énorme. Je n'ai pas la maladie où il y a le plus de handicap en France. C'est plus possible. Sclérose en plaques.
Je peux perdre l'usage d'un bras, d'une jambe ou encore perdre la vue.
C'était fou. Je suis partie sans traitement. Pas pour fuir la maladie, pas pour fuir la médecine. Je savais que mon corps me disait juste, pas maintenant.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, dans Demain nous appartient, on va mettre la famille Daunier aujourd'hui à l'honneur sous les traits d'Aurore, évidemment avec Julie Debazac qui est notre invitée. Bonjour Julie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Aurore est arrivée après le départ de Laurie il y a maintenant quelques années. Elle est bien installée, la famille s'est installée, la belle famille est venue s'installer et est arrivée. Enfin franchement, il s'en passe des choses dans la vie des Daunier aussi. Hein.
Ah oui, ça fait 2 ans là que je suis sur DNA et j'ai la famille qui s'est agrandie, j'ai une famille que j'aime, qui solidifie, qui se charrie, les auteurs sont là, la série évolue et les personnages évoluent, c'est ce qui fait aussi le charme d'être dans une série. Et j'avoue que j'aime ma petite famille Daunier.
Elle est gâtée en ce moment parce qu'on voit la sœur de évidemment de Kamel qui a fait son retour aussi, donc il y a carrément la belle-sœur qui est arrivée, les parents, le bateau, enfin voilà, c'est vraiment tout un univers autour de la famille Daunier qui s'est enfin constituée ces derniers mois.
Oui, c'est aussi de nouveaux comédiens qui arrivent, c'est très agréable, et puis de jouer des intrigues comme ça qui sont qui appellent aussi au souvenir de légendes collectives comme ça sur la Dame Blanche, et on découvre aussi un frère jumeau de Kamel. J'ai trouvé le comédien aussi assez formidable d'arriver à la fin comme ça du parcours de la Dame Blanche et que ce soit aussi crédible, c'est très touchant. Et puis aussi quand notre famille est bouleversée comme ça, le couple se resserre, j'ai d'autres couleurs à jouer, ça me touche comme lorsque on apprend que le papa d'Emma n'est pas William, c'est assez bouleversant parce que on découvre, moi Julie comédienne, je découvre les textes j'allais dire 5 semaines avant les spectateurs, le temps de les jouer et qu'ils soient diffusés, donc c'est un peu sur l'instant aussi, ce qui fait aussi le charme et le côté piquant aussi de ce genre de travail sur une série.
Et puis alors le nouveau décor de la maison.
Oui. Je suis sortie un peu du studio parce que le commissariat est beaucoup en studio, ce qui est très agréable parce qu'en plus ils nous ont fait un très beau décor là. Et je sors, oui, je vois déjà le jour. J'allais dire le ciel bleu,
la piscine,
les palmiers. C'est vrai. Non, mais quand je me dis mais où on est. Enfin, il y a un côté un peu hacienda. Enfin, et puis ça passe très très bien à l'image. J'ai aimé aussi le fait qu'on soit avec les Chardot en face. Enfin, il y a un côté collectif, un peu branque aussi, qui est un peu comme la famille. amie qui s'est atterrie là, elle s'est prise de passion et de coup de foudre pour cette maison. Elle entrave un peu les lois pour la choper, cette maison, et pour l'avoir. Donc j'aime bien quand on mélange aussi un peu la comédie et voilà, et les intrigues policières ou la dureté de ce qui peut se passer dans une famille.
Elle a tout fait pour l'avoir à la maison, hein. De toute façon, elle a rien lâché, hein.
Tout ça, je trouve ça très drôle parce que j'aime bien quand ça sort un peu des lignes. C'est ça qui est drôle à faire et à jouer.
Justement, c'est qu'Aurore peut nous offrir aussi bien des scènes de tendresse avec ses filles, sa famille et tout. Et après, vraiment, ce côté brut de décoffrage de la flic, après aussi.
Oui, qui est très instinctive, intuitive et cache en même temps. Et c'est une difficulté aussi d'apprendre à s'écouter, à prendre des risques dans son travail. Je pense qu'elle est très, très, très impliquée et très passionnée. En même temps, ça lui crée aussi un doute, hein. Je trouve, quand on est comme ça. Enfin, j'essaie de lui créer des failles. Les failles m'intéressent dans un personnage. Et après, j'ai cette chance de pouvoir avoir dans l'écriture et une partie professionnelle et une partie privée que je trouve enrichissante, quoi, qui enrichit énormément le personnage. Donc là, on vient d'apprendre plein de choses sur le personnage de Kamel. Peut-être qu'on va m'écrire des choses sur mon passé. Moi, je m'en suis construite un peu comme ça en fantasme, mais quand je connais pas, je me dis forcément, il y en a eu pour qu'elle elle décide de faire ce métier, qu'elle ait cette niaque-là, quoi. Forcément, il y a eu des blessures, mais je vais les découvrir un peu comme vous. Je les connais pas.
Oui, ça va venir, ça va venir. Ouais. Moi, je me souviens, c'est quand t'as eu à ton arrivée, t'étais invité dans notre émission à ton arrivée, et là, deux ans plus tard, voilà, aujourd'hui, le personnage a pris une ampleur, voilà, c'est incroyable, même si Laurie a fait son petit retour quand même au milieu, et puis qu'il n'est pas dit qu'elle revienne pas, parce que
exactement,
elle est juste disparue pour l'instant.
Exactement, et j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de complicité aussi à jouer avec elle. Au départ, on s'est rencontrés vraiment dans le jeu, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir, et puis on a fait un trajet ensemble en train qui était très chouette, puis elle venait d'avoir son petit bébé, et voilà, on a une complicité de femme, de maman, et puis voilà, et puis de connivence aussi sur le fait, entre guillemets, que je la remplace, mais c'est vrai qu'on l'a pas trop pris comme ça, parce qu'on a nos vies aussi chacune, et que je pense que nos personnages peuvent cohabiter très très bien ensemble aussi, si jamais elle revient, ou qu'elle revienne en tant que flic, pas flic, ou en tant qu'autre chose, enfin un autre métier.
Julie, est-ce que ça t'a laissé le temps aussi de faire d'autres choses, Demain nous appartient, même si on t'a vu tout l'été à l'antenne?
Bah oui, c'est la chance de pouvoir aussi avoir une vitrine et d'être présente à l'image, ce qui est important aussi pour un comédien. Et j'ai tourné là cet été, puisque j'avais un petit peu de vacances, j'ai tourné sur un long métrage de Luc Béraud, où il y a Serge Riaboukine et Anne Loiret, et des comédiens tout autour de moi, Christine City aussi, Jean-Louis Martinelli, enfin des super comédien. Ça a été un tournage extrêmement incroyable et fantastique.
Très bien. Merci Julie, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Eh ben, c'est un grand plaisir. Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Précédemment.
Au moins 3 cambriolages depuis septembre. Toujours dans des propriétés privées et toujours des tableaux cotés.
Ce mec, c'est un vrai fantôme. Il laisse aucune trace.
Ouais, sauf sa signature.
Sylvain ! Sylvain ! Au secours, Sylvain !
Ta mère avait un cancer en phase terminale.
J'arrive pas à réaliser qu'elle est morte.
Tu crois pas qu'on devrait prévenir ton père?
Ah non, 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 non. Non, pas mon père.
Pierre Jacob, je suis ton grand-père. Bonjour, Aurore.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, outre de belles surprises qui vous attendent, 2 coups de cœur ciné, et oui, carrément, lundi prochain, avec Nessim Chektaoui qui sera notre invité à l'occasion de la sortie de son film Placé, qui sortira le 12 janvier dans les salles. Adieu Monsieur Hoffman, et ce sera également l'événement de la semaine prochaine avec Fred Cavaillé, le réalisateur, qui sera avec nous aussi pour parler de la sortie de ce très beau film, plus bien d'autres surprises. Évidemment, vous vous en doutez, comme chaque semaine, dans Chute, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne, du lundi au vendredi à 10h07, midi 17 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h. Pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Et je vous dis
À demain pour la quotidienne.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec Vue d'ici, volet battant, coulissant ou persienne innovant, fabriqué en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.